foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Aurica Sandri Nezergi, vous êtes moldave, professeur de littérature et de civilisation russe.
C'est ça.
Vous habitez à Toulouse depuis un certain temps, mais vous venez de la Moldavie.
Exactement, Benoît. Bonjour. Bonjour à tous.
On ne va pas faire un cours de géographie, mais qui en France sait que la Moldavie, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps,
ouais,
est coincée entre l'Ukraine et puis la Roumanie.
La Roumanie, c'est
pas
ça.
Pas très loin de la Pologne, de l'Autriche. Bon, les Balkans, c'est mal connu, on sait qu'il y a eu de la guerre.
Exactement, c'était une poudrière pendant des dizaines d'années, notamment au siècle dernier, 19e, etc. Mais c'est vrai que la Moldavie, mon pays, dont je suis originaire, a une histoire très riche et très ambivalente, parce qu'en fait, dans le sens, elle a été très convoitée depuis des siècles.
Il n'y a pas trop de frontières naturelles.
Non.
Et puis, je voulais vous dire, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation, parce que vous deviez venir au moment du... Vous êtes orthodoxe, au moment où le Noël orthodoxe correspond à l'épiphanie chez les catholiques.
C'est ça.
Et puis, il y a eu la période du coronavirus, nous sommes début février, mais nous avons vécu à Toulouse la semaine pour l'unité des chrétiens. Or, cette diversité géographique et aussi la grande diversité politique et religieuse, c'est un signe de richesse.
Exactement. C'est toujours comme cela qu'il faut le vivre et le ressentir, parce qu'il n'y a que comme cela qu'on va y arriver un jour à se réunir tous. Parce qu'on est dans ma foi, j'y crois. Et encore une fois, toute ma vie, depuis toujours, je suis persuadée que Dieu est unique, notre Père. Et arriver un jour à cette à pousser cet œcuménisme jusqu'au un jour à célébrer toutes ces belles fêtes. Vous avez évoqué, d'ailleurs, Benoît, vous avez évoqué
Noël, l'Épiphanie. Votre mariage, c'était à Pâques.
Et à Pâques.
Or, c'était
exactement
depuis 1000 ans qu'il n'y avait pas eu
ces fêtes
juives.
Alors, je vous ai raconté ça juste tout à l'heure, on discutait ensemble, et c'est vrai que c'était quelque chose de merveilleux, parce que je suis arrivée en France en 1995 avec deux valises et mon fils aîné dans les bras. Il n'avait pas tout à fait encore 6 ans. Et j'avais fait d'abord des études à Montpellier, bref, à l'université de Montpellier. Mais lorsque je suis arrivée, en 1995, pourquoi on disait ça ?
Parce que votre mari,
oui, voilà,
et vous êtes mariés le jour de Pâques.
Et donc,
c'est rare que, cause du calendrier grégorien.
C'est ça. Donc, pendant quelques années, je me suis battue, j'ai vécu toute seule avec mon fils aîné, Evgeny. Ensuite, j'ai eu une très grande victoire aussi dans la vie. Il y a Victorien qui est arrivé, donc j'ai deux garçons. Donc, je les aime plus que tout. Et donc, on disait que je me suis mariée, quelques années plus tard, avec mon mari, nous choisissions, donc on était en train de choisir
une date.
Et moi, bien que je suis très évidemment sensible à tout cela, mais on n'a pas fait attention. Nous avons choisi le 7 avril 2007. Et en fait, c'était quelque chose de tellement important. C'était une date depuis 1000 ans. La Pâque n'était pas tombée, comme on dit,
célébrée
en français,
le même jour.
Célébrée
pour les
même
Juifs.
Jour. Juifs, orthodoxes et catholiques. Quelques jours après, en effet, on l'a vu, et c'était quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de merveilleux, très fort. Une énergie christique qu'on n'oubliera jamais.
Voilà, cette énergie qui permet de dépasser toutes les tensions, les difficultés, parce que nous vivons une période dramatique de coronavirus, mais vous avez vécu aussi plusieurs drames. D'abord, Tchernobyl.
Puis
le temps du communisme. Et donc peut-être vous allez nous parler un peu de tout ça, comment la foi est source d'énergie, de confiance dans l'avenir.
Je dirais...
Alors, Tchernobyl, vous étiez en train de passer le bac.
Oui, exactement. Alors, c'était en 85. Je passais avec mes collègues. C'était l'année de notre bac et c'était l'épreuve d'histoire. On était tous en train d'écrire notre copie, on va dire, quand Tchernobyl a explosé. Ce qu'il faut savoir, c'est à peu près entre 500 et 600 kilomètres à peu près de ma petite ville où je suis née, où on passait le bac à l'époque. Et en fait, on a continué à écrire, en fait. Personne ne nous a rien dit. On ne nous a pas sortis de la salle. Personne ne nous a rien dit, on ne nous a pas donné des masques.
Alors que deux ans avant, on vous avait tout expliqué comment il faudrait faire en cas de conflit et de conflit
radio,
armé ou radioactif.
Radioactif, parce qu'en fait, dans les écoles soviétiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une discipline au lycée qui s'appelle военная подготовка, préparation militaire. Et donc, on nous apprend, en cas d'attaque radio-nucléaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez
le masque
anti-gaz, les autres masques aussi. On n'a absolument rien utilisé hors de l'explosion de Tchernobyl. Quelques années après, l'année d'après, on n'a rien touché, on n'a pas pu manger ni pas un seul fruit et légume dans nos jardins. Tout a été contaminé. Il a eu beaucoup d'enfants ensuite malades. Il a eu de la leucémie. Il a eu beaucoup de cancer du sein pour les femmes. Et voilà, ça aussi, c'est mon pays. À l'époque, c'était encore l'Union soviétique. C'était avant le mur de Berlin 18, la chute de Berlin. J'avais 20 ans et j'étais déjà étudiante en première année à la faculté de philologie à Chișinău, la capitale de Moldavie. Et deux ans après, en 92, le bus, je suis arrivée en cours, troisième année, et j'ai vu le bus de Lénine par terre parce que c'était 91. Pardonnez-moi. J'ai quand même aussi des émotions.
Comme une guerre civile, oui, bien sûr, parce que vous êtes justement, vous, accidenté, mais vous allez nous expliquer, vous êtes aussi déraciné. Et pourtant, on a cette foi, vous parliez de
toujours.
La flamme de la foi et de votre visage, si nous étions
toujours
sur Catéo, nous verrions votre visage rayonnant. Mais justement, pourquoi quitter son pays? Parce qu'avec ces moments de tension en Europe centrale,
oui. Alors, il est vrai que je viens du pays, je suis née dans un pays aujourd'hui il n'existe pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très fort, mais c'est d'une vérité implacable et vérité historique, parce qu'en fait...
Les frontières bougent tout le temps.
Les frontières ont bougé tout le temps depuis des siècles. En fait, quand on parle un peu de l'histoire de la Moldavie et Bessarabie, je tiens juste après de dire en deux mots... À la Bessarabie, la Moldavie, parce qu'en fait, si historiquement on va un tout petit peu plus précisément dans ce sujet, je suis née en Bessarabie. C'est ce territoire entre Nistru, deux fleuves, et Prout, Dniestr, autrement aussi on l'appelle. Et en fait, aujourd'hui, l'Union soviétique n'existe plus depuis plus de 70 ans. L'histoire a fait son œuvre, a fait tomber des murs. Celui de Berlin, donc on l'a évoqué tout à l'heure. Décimer des frontières, ce que vous disiez que ça change tout le temps depuis des siècles, Benoît.
Même le conflit turc.
Et le conflit
donné.
Turc, mais ça c'était...
Après
voilà.
C'était l'Autriche, nous parlerons des guerres de religion avec Jean Hus.
Exactement.
Qui était brûlé parce que plutôt au moment où Copernic disait que ce n'était plus la Terre qui était au centre du Soleil, la Terre au centre de l'univers, mais le Soleil. Héliocentrique. Et alors, c'était trop tôt. On est dans le débat de la foi et de la raison.
Il y a cet aspect-là aussi, bien entendu. Et donc, moi, ce que je veux dire par là, l'histoire, les frontières, tellement ont été changées, mais il faudrait du temps pour libérer les peuples de leur rempart intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Union soviétique n'existait plus, mais les générations, nous, moi, je suis une génération de Brejnev, Léonid Brejnev, une génération de soviétiques, où, à l'époque, on nous disait « la religion, c'est l'opium du peuple ». Je crois que ça appartient à Karl Marx.
Pas de catéchisme.
Pas de catéchisme.
Pas de messe le week-end.
Non, pourquoi? Parce qu'en fait, les prêtres rouges, à l'époque, c'était les dirigeants communistes. On se réunissait non sous les oriflammes, dans les églises orthodoxes, autour de l'église orthodoxe et à l'intérieur, mais on se réunissait devant des tribunes. Les prêtres, c'était des dirigeants communistes, et les oriflammes, c'était les drapeaux rouges avec le marteau et la faucille estampillés, les drapeaux estampillés de le marteau et de la faucille.
Et comme donc, votre famille était plutôt des cadres du régime, ils n'avaient pas le droit de montrer officiellement à l'extérieur leur foi.
Non, Benoît.
Alors, j'étais... comment voyez-vous la laïcité française?
Mais c'est magnifique. C'est très précieux. Et je dirais, c'est très précieux la laïcité. Vous savez, la génération soviétique dont je fais partie jusqu'à mes 25 ans, parce que j'ai quitté, je me suis déracinée à 25 ans, après avoir travaillé en tant que professeur de russe une année au lycée, et ensuite j'ai eu un poste à l'inspection académique. Et lorsqu'on arrive dans un... La France fait rêver. La France faisait et fait toujours rêver. Et quand j'étais petite, j'ai eu une chance inouïe, grâce à ma maman, de connaître Victor Hugo avant d'arriver en France, L'Homme qui rit, Jean Valjean, Les Misérables. Quel message de tolérance et d'amour Jean Valjean et l'abbé qui le fait rentrer chez lui en sachant que oui, peut-être il partira. Mais c'est intemporel, c'est universel.
Mais vous êtes message. Aussi de culture profondément russe, soviétique, pas soviétique avec Dostoïevski. Mais vous allez nous en parler parce que pour l'instant, nous allons écouter, méditer ce beau chant que vous nous avez apporté. Des chœurs du patriarcat russe de Moscou
Non, ça sera... celui-là aussi, on l'a écouté ensemble, Benoît, c'était sublime. Mais là, ce qu'on va écouter, ça va être « Mare este Dumnezeu ». C'est un chant orthodoxe liturgique qui est chanté, qui est porté aux cieux par un groupe de prêtres, jeunes prêtres. Et Marie est Dumnezeu, ça veut dire que Dieu est grand et toujours vivant dans nos cœurs. Et là, il chante en russe, pardon. Moi, je vous ai donné aussi en moldave la traduction. Mais il chante en russe et il parle de dom, moi dom, ça veut dire ma maison, elle est au ciel. Leur Merci. Maison. Et Alors. La mienne aussi.
Moi, в небе край родной мой, в небе дом. Там мой отец благой мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, и скорби лишь кругом мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, и скорби лишь кругом мой, в небе дом.
И буду я страдать мой в небе дом, все ж не могу роптать мой в небе дом. Ведь сам Христос страдал, в небе обещал, красить Он венцом мой в небе дом. Ведь сам Христос страдал, в небе обещал, красить Он венцом мой в небе дом.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et Aurika Sandri-Gergi,
Vous êtes Géré en... Guy.
Merci.
Je vous aide, Benoît, je vous
oui.
aide.
Oui, ah oui, j'ai pas appris, ni ne sais lire le slavon. Vous venez effectivement de Moldavie, vous oui. avez été philologue,
oui.
Vous êtes maintenant professeur de littérature et de civilisation russe.
Oui.
Vous nous avez parlé un petit peu de la littérature française et de la laïcité en France, qui est une chance à travers la diversité des possibilités de croire ou de ne pas croire, qui est différente du régime soviétique mmh. où il y a effectivement des beaux champs du patriarcat russe, mais en même temps une certaine rigidité politique.
C'était plus que rigidité politique.
Oui.
Seulement, je voudrais quand même dire quelque chose de assez important, dirais-je. Parce que lorsque je suis arrivée en Occident, avant d'arriver en France, ce qu'il faut dire, c'est que les gens de pays de l'Est, d'ex-Union soviétique, les Slaves, les Russes, les Moldaves, que ce soit les... On a une adoration pour la France. C'est-à-dire qu'on est très francophile. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi que les Français sont très slavophiles. Il y a beaucoup de Français slavophiles. Et en fait, la France faisait rêver aussi par la liberté, par les Lumières, par tout ce qu'on pouvait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu la chance que ma maman, en étant d'abord professeure des écoles et ainsi directrice d'école, elle, à la maison, elle me parlait aussi des romans de Victor Hugo. C'est comme ça que j'ai appris L'homme qui rit, c'est maman qui m'a raconté, Bichor Stowe, etc. Mais j'ai eu cette chance-là. Mon papa était dirigeant, certes, il était dirigé en sovkhoz avec une équipe, sovkhoz où, en Moldavie, on fait du vin depuis des siècles. Et donc, c'était la cave, en quelque sorte, d'ex-Union soviétique, d'ex-pays, de bloc socialiste, d'ex-socialiste. Et en fait, la religion était interdite, le culte était interdit. On disait que c'est de l'opium pour le peuple. Et tout était en cachette. Moi, j'étais baptisée en cachette à l'église Saint-Théophile de Tchoufla, autrement dit, à Chișinău. Et j'étais baptisée en cachette. C'était quelque chose. Mais on vivait tout cela, notre foi. Et mon espérance, tout ce que maman m'a... Ça venait surtout du côté de ma mère, la foi, l'espérance, tout cela, on le vivait à la maison. J'ai eu de la chance que maman, on priait à la maison, on lisait les textes, etc. Ça vient de là. Et après, moi, je me suis sortie avec l'espérance, toujours, j'avais toujours eu cette flamme en moi, et que tout est possible. Et quand je suis arrivée, même déracinée, avec, à l'époque, mon fils, qui a maintenant 32 ans, et Victorien d'ailleurs 17. Mais pour moi, tout paraissait possible parce que je croyais en Dieu, et Dieu le Père. Et d'ailleurs, pour moi, la plus grande et la plus jolie prière, c'est « Pitié de moi, mon Dieu ». Seigneur, aie pitié de moi. Ça, c'est évidemment, il y a notre Père, il y a les autres prières. Mais voilà, on vivait avec cela. Et ce qui m'a sauvée aussi, parce qu'on arrive en Occident et on parle un tout petit peu de nous, ces enfants-là de l'ex-Empire russe, et comme Lénine nous a appelé d'ailleurs les semences du communisme à l'époque. Bon. Et on arrive en Occident et on nous parle, on nous dit « Ah, mais vous étiez comme ci, vous étiez comme ça, vous étiez formaté. » Certes, mais je vais vous faire une petite confidence. Lorsqu'on était avec les cravates rouges à l'époque, en l'Union soviétique, ou avec les étoiles, Oktyabryata, ce qu'on appelait jusqu'à l'âge de 7 ans, et entre 7 et 14 ans, pionnier avec la cravate rouge, ensuite la jeunesse communiste dont je fais partie, alors nous, on ne se sentait pas du tout formaté. On était heureux.
C'était la culture de l'époque, et en même temps, Dostoïevski.
Et en même temps, j'ai eu la chance inouïe, parce que je vivais dans ce monde-là de livres. Et c'est ça qui m'a toujours, toujours soutenu cette flamme en moi. Les livres, pour moi, c'était quelque chose qui m'a sauvée de tout.
Une ouverture.
C'est ça, c'était mon monde. L'art, la peinture. Et d'ailleurs, Dostoïevski, dans ses carnets, si vous permettez, c'est très important, Benoît, dans ses carnets des sous-sols, Fyodor Dostoïevski fait part de sa réflexion autour de livres. Et il dit, laissez-nous seuls, sans les livres, et nous serions perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à qui nous accrocher, à quoi nous retenir, quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter. C'est comme ça, c'est un socle. Et c'est aujourd'hui d'autant plus important d'expliquer aux gens, à la jeunesse, à quel point c'est important d'avoir son univers, à quoi aujourd'hui tout bouge, surtout dans cette période qui est tellement difficile et tellement compliquée. Avoir ça, son espérance, avoir la foi, avoir son univers, c'est quelque chose qui va sauver, qui va sauver.
Alors, cette foi, elle a été souvent en tension entre les orthodoxes depuis les schismes. Comme nous n'avons fait qu'un tout petit peu de géographie ou de politique, nous n'allons pas faire toute l'histoire de la théologie et des conflits entre les orthodoxes entre eux d'abord, et puis les chrétiens entre eux aussi.
Ouais.
Mais cette diversité des visages, c'est la pluralité des formes de l'évangile qui a été transmis différemment selon les époques et les lieux pour nous dire que Dieu nous sauve. Et le message aussi que nous avons, c'est de dire merci. Le chant que vous avez apporté, c'est « Ma maison est au ciel ».
Ouais.
Oui, mais nous créons le ciel sur la terre. Alors,
tout à fait d'accord, Benoît.
Nous suivons cette semaine pour l'unité des chrétiens qui a eu lieu il y a quelque temps. Et je pense que les gros efforts qui ont été faits pour l'unité, je vous l'avais signalé le bienheureux Grégoire X, mais c'était en 1276. Il est connu parce que c'est le premier pape qui a invité... au moment de l'empereur byzantin Michel VIII, paléologue, des représentants au deuxième concile œcuménique de Lyon en 1274, de dire il faut dépasser ces querelles pour savoir est-ce que Jésus il est Dieu et homme, est-ce qu'il a une seule nature, et aussi ces blessures des croisés à Constantinople. Et nous avons fait de gros progrès dans le rapprochement. Alors, je crois que, au-delà de ces échanges, vous avez apporté la parole de l'Évangile que vous allez nous lire en slavon,
en moldave. Alors, Benoît, oui, tout à fait. Avant de dire ma prière en moldave, la prière en moldave, je voulais juste dire oui, en effet, vous avez raison. Il y a eu plusieurs conciles durant toute l'histoire, œcuménique, bien entendu. Et on va prier tous, bien sûr, il faut continuer à prier pour que ça se fasse, surtout dans la non-violence. Ce que dans l'évangile de Luc, justement, j'ai porté cette phrase quand vous m'avez demandé, Benoît, une phrase autour de laquelle vous voudriez réfléchir. Eh bien, c'était cette, ce qui a dit Jésus lorsqu'on est venu, et c'est relaté, évoqué, décrit par dans l'évangile de Luc, lorsqu'on vient chercher Judas trahi, Iscariote trahi Jésus
au Golgotha,
quand ils viennent le chercher dans le jardin des Oliviers où il était avec certains de ses disciples, et Judas arrive et il voit qu'on vient le chercher, qu'on va l'emprisonner, qu'il va au-devant des souffrances qui l'attendent, etc. Il le sait que ce moment arrive. Et un des serviteurs de Jésus lui demande qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on emploie le glaive, est-ce qu'on se défend ou pas, et avant qu'il réponde oui. Et c'est ça, c'est la réponse de non-violence de Jésus, c'est ça que je voulais vous dire, la réponse non-violente de Jésus-Christ. Il dit laissez faire même cela, voilà. Et donc aujourd'hui, dans ce monde tellement violent, c'est le message à passer d'espérance et de non-violence auprès des jeunes, de toutes les générations. Et je voudrais donc vous dire ma prière en ma langue maternelle, une des deux, parce que j'en ai deux, le russe et le moldave. Tatăl nostru, care ești în ceruri. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fii vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean, căci a ta este împărăția și puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh. Amin.
Notre Père, délivre-nous du mal, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et vous venez de vous signer deux fois et vous reviendrez pour nous expliquer comment le signe de la croix, comme les icônes chez les orthodoxes et comme les chants, sont le signe de cette diversité de nos prières et de signes que Dieu nous aime. Merci.
Il est toujours là. Et avec lui, on s'en sort toujours.
Merci, Aurica, pour votre sourire et votre témoignage.
Merci à vous infiniment.